Alors aujourd'hui, je vous invite à ouvrir déjà votre Bible. Et aujourd'hui, nous verrons la lettre de Jean. Merci à Sylvain, notre pasteur, qui m'a donné ce texte et ce livre à étudier. Donc ça sera ma série de prédications qui parlent plutôt de la vie chrétienne. Et on lira aujourd'hui 1 Jean 1, les versets 1 à 4. 1 Jean 1, le verset 1 à 4. Et avant, je vais juste prier pour remettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, la vie est en toi et tu es la vie. Ta parole, Seigneur, dit qu'elle nourrit et nous prions, Seigneur, pour que cette parole puisse nous nourrir ce matin. Qu'elle me nourrisse d'abord moi-même et qu'elle nous nourrisse tous ensemble. Tu connais, ô Seigneur, où nous en sommes chacun avec toi et tu sais ce dont nous avons besoin. Que ta parole, ô Seigneur, nous aide à avancer avec toi, à te faire davantage confiance et à marcher selon ta volonté. Que tu nous aides, ô Seigneur, à comprendre, que tu nous aides, ô Seigneur, à retenir et que tu nous aides, ô Seigneur, à mettre en pratique par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, 1 Jean 1, le verset 1 à 4, et avant tout, je vais juste donner un peu le contexte dans lequel cette lettre a été écrite. Donc, cette lettre est écrite donc, par Jean, comme son nom l'indique, c'est l'apôtre Jean, celui qui était le disciple de Jésus-Christ. À cette époque, c'était probablement le dernier des disciples et qui restait en vie. Et ça faisait déjà une décennie que le christianisme était connu, que l'évangile avait été annoncé, que les églises nouvelles avaient vu le jour, et on va dire que cet engouement, cet enthousiasme de se rendre compte de ce que Dieu il avait fait au travers de Jésus-Christ commençait à ternir un peu, à perdre un peu de sa saveur, et il y avait notamment des enseignants qui donnaient des fausses prédications, enfin en tout cas des messages erronés, qui banalisaient le péché et qui également remettait en cause à la fois la divinité de Jésus-Christ, mais aussi son humanité. Or, si on remet tout ça en cause, notre foi s'écroule, parce que notre foi repose sur ça. C'était donc capital pour Jean de remettre les choses dans leur contexte, de rassurer les chrétiens, ceux qui avaient entendu parler de la bonne nouvelle, de leur montrer en qui ils ont cru et en qui ils ont mis leur confiance. Voilà l'objet de cette lettre. Et je vous invite à lire donc les versets 1 à 4, et je lirai dans la version Second 21. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins. Et nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui est auprès de Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons afin que notre joie soit complète. Voilà où se termine notre texte. Quatre courts versets, mais dans lesquels il y a beaucoup de choses. Et il y a une chose en tout cas qui paraît être le point commun pour tous, c'est une communion. Et la première communion, on peut la voir entre les versets 1 et 2, c'est la communion entre Dieu et Jésus. Les premiers mots de cette lettre de Jean commence comme dans son évangile, l'évangile selon Jean, les quatre premiers versets disent « Au commencement, la parole existait. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. » Voilà les quatre premiers versets de l'évangile selon Jean. Et celui dont parle Jean dans son évangile et dans cette première lettre de 1 Jean, c'est bien sûr de Jésus-Christ. Un autre livre de la Bible, qui, dont les premiers mots sont au commencement, c'est le livre de Genèse, qui veut dire commencement ou origine. C'est le premier livre de la Bible. Le seul que l'on voit en action dans ce premier livre, dans la Genèse, c'est Dieu. C'est Dieu qui est en action au commencement. Jésus était au commencement. Jésus est Dieu. Jésus est en parfaite communion avec Dieu le Père. La vie sur terre n'est donc possible que par lui. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous donne la vie. Et tout au long de son ministère sur terre, Jésus s'est distingué des prophètes, ceux que Dieu avait choisis pour annoncer sa parole au peuple d'Israël. Jésus s'est distingué de tous par son autorité. Son autorité qui laissait l'auditoire bouche bée, tellement ils n'avaient jamais vu quelqu'un parler comme ça ou agir de la sorte. On peut voir que Jésus, il a maîtrisé les événements météorologiques, que Jésus, il a eu la victoire sur la mort de Lazare avant sa propre mort et sa propre résurrection, que Jésus, il a fait de multiplications miraculeuses de pain et de poissons, et que Jésus était un enseignant révolutionnaire, que les gens disaient « Jamais nous avons entendu quelqu'un parler de la sorte. » Et il s'est explicitement présenté lui-même comme le Fils de Dieu, comme Dieu lui-même. Il le dit dans l'Évangile selon Jean de nouveau, Jean 3, le verset 10. Je lis dans la version seconde 21 toujours. « Le Père et moi, nous sommes un. » Le Père et moi, nous sommes un. Jésus déclare qu'il est lui-même Dieu. Et à l'un de ses disciples qui lui avait demandé de leur montrer le Père, Jésus répondra, toujours dans Jean, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. » Et on sait, les œuvres que Jésus a accomplies, et c'était vraiment extraordinaire, que les prophètes eux-mêmes ne faisaient pas auparavant. Jésus s'est vraiment distingué des prophètes. La communion de Jésus avec Dieu se voit également par le pardon de péché. Qui a le pouvoir de pardonner le péché? Dieu seul a ce pouvoir de pardonner le péché. Or, Jésus, il a dit pendant son ministère qu'il avait ce pouvoir de pardonner le péché. Et je dirais, pour nous, ça peut sembler quelque chose de difficile à saisir, d'inaccessible. Pour nous, les hommes qui avons un esprit cartésien, qui voulons comprendre que 1 plus 1 égale à 2, ça peut nous sembler quelque chose d'inaccessible de se dire, mais comment Dieu peut être un avec Jésus-Christ? Et c'est là qu'il y a notre part de foi, et c'est là qu'il y a notre part de certitude. Il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas. Et même dans la vie d'aujourd'hui, nous faisons confiance ou nous agissons jour après jour sans avoir une certitude sur certaines choses. À peine la semaine dernière, je lisais un article sur Yahoo, qui, moi, je ne suis pas du tout fan d'astrologie ou d'astronomie, mais je lisais qu'ils avaient découvert un trou noir qui ne pourrait pas exister selon leur, leur savoir d'aujourd'hui, on va dire, d'après leur expérience, un trou de ce genre ne devrait pas exister. Du coup, ça remet en cause toute leur théorie, en fait. Et je me dis, ben, on n'est pas au bout de nos surprises, en fait. On ne sait pas tout, on ne maîtrise pas tout. Et quand on est dans cette situation où tout semble, où les choses semblent nous dépasser, moi, j'ai envie de courir à la Bible et à lire ce Deutéronome 29, qui dit que les choses cachées sont pour Dieu et que les choses révélées sont pour les hommes, vous et moi. Les choses cachées sont pour Dieu et on n'y peut rien, on doit l'accepter. Mais les choses qui sont révélées sont pour nous et ça nous donne de mieux connaître Dieu aussi. Et peut-être pour aussi bien voir la position de Christ et sa supériorité aux prophètes et le fait que Christ est le reflet de Dieu, je vous invite à lire chez vous, en tout cas, Hébreux 1 notamment, qui parle vraiment de ça et qui montre comment Christ est vraiment le Messie, le Fils de Dieu, qu'il est Dieu. Mais qu'est-ce que cela change de savoir que Jésus est Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que ça change quelque chose? Je pense que ça change énormément de choses. Ça veut dire que Jésus, il a la suprême autorité, qu'il est au-dessus de tout, et aussi qu'il est digne de notre confiance. Et c'est ce que veut rappeler justement Jean aux chrétiens destinataires de cette lettre. Il leur dit en quelque sorte, voici qui est celui en qui vous avez cru, pour les rassurer, les affermir devant les enseignements erronés qu'ils recevaient. Vous savez, dans la construction, je suis dans le bâtiment, la fondation est un ouvrage important et capital. C'est ça, en tout cas, qui garantit la pérennité du bâtiment. Sans des bonnes fondations, le bâtiment est voué à la ruine. Aussi beau soit-il un bâtiment, s'il n'a pas de bonnes fondations, vous lui donnez quelques mois, quelques années peut-être, mais il finira par s'écrouler. Mais une autre chose aussi importante et qui va de pair avec les fondations, à votre avis, c'est quoi? Qu'est-ce qui va de pair dans la construction avec les matériaux? Oui? La pierre? Ah, je suis bien content que Ming ne soit pas là. Je me disais que Ming allait les reprendre en... Oui, je me disais que Ming allait reprendre en un instant. Mais voilà. J'ai entendu le matériau, la structure. Oui, la structure, oui. Mais tout ce qui repose sur la fondation. Ensuite, ce qui est en dessous de la fondation? En dessous de la fondation. En fait, on ne s'en rend pas compte, en fait... Le plus important, en fait, c'est pas la fondation en premier, c'est d'abord le sol. On ne s'en rend pas compte. Hein. La fondation, elle est importante, elle est vraiment importante, elle est capitale. Mais ce qui est plus capital avant tout, c'est le sol. Et nous, dans le bâtiment, on appelle ça le taux de travail, en fait. Il faut connaître le taux de travail afin de pouvoir ancrer un bâtiment ou des fondations dans un sol. Et donc, il y a un géotechnicien qui passe, qui fait des sondages et qui calcule ce taux de travail et qui dit, ben, en fonction de ça, ben, en fait, ces fondations doivent être ancrées de tant de centimètres ou de tant de mètres dans le sol. Et on appelle ça le bon sol. Et si pour la construction ou pour le bâtiment, la fondation est quelque chose de capital, je dirais que la foi, et si on considère la foi comme un bâtiment, Jésus-Christ représente les fondations et le bon sol, c'est notre certitude, notre assurance de ce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Messie, celui qui nous lave de nos fautes et celui qui nous met en relation avec Dieu le Père. Et une chose que l'on voit dans ce texte, c'est également, parlant de la communion, et c'est la communion de chrétien avec Dieu et Jésus-Christ. Et ça, c'est le verset 3 qui nous le dit. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus que nous sommes en communion. La communion avec Dieu se fait par le Saint-Esprit, bien sûr. Et c'est l'une des caractéristiques du chrétien. C'est son privilège d'être en communion avec Dieu et avec Jésus. Jésus dit que ceux qui croient en lui sont en communion avec lui, et donc avec Dieu le Père. Et vous lirez dans la Bible, en tout cas, de tout temps, Dieu dans son amour a voulu demeurer en communion avec les hommes qu'il a créés à son image. Déjà dans le jardin d'Éden, dans la Genèse, Dieu était en communion avec Adam et Ève avant que le péché ne rentre dans le monde. Et après s'être révélé au peuple d'Israël, Dieu a voulu également demeurer au milieu d'eux à travers l'arche de l'Alliance, le tabernacle. Cette communion n'était pas parfaite encore. C'était qu'une préfiguration de ce qui allait venir. Et ensuite, Jésus est venu dans le monde, Emmanuel, Dieu avec nous, accomplissant une bonne fois pour toutes le sacrifice qui nous donne le pardon des péchés. En la foi seule en Jésus-Christ. En la foi seule en lui. Nous donnons ainsi d'être enfants de Dieu. Hébreux 2, verset 1 nous dit ceci. Hébreux 2, verset 11. De fait, celui, entre parenthèses Jésus, qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient, entre parenthèses les chrétiens, ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus n'a pas honte de t'appeler frère, Jésus n'a pas honte de t'appeler sœur, si tu mets sa confiance en lui, si tu crois en lui. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons le même Père. Et cette communion n'est pas possible en dehors de Jésus. Elle n'est possible que lorsque Jésus-Christ nous sanctifie, c'est-à-dire lorsqu'il nous rend aptes à venir à Dieu en lavant nos péchés. Parce que Dieu est saint et Dieu ne tolère pas le péché. Dieu ne peut pas être en contact du péché. Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Et il en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors comment être en communion et garder cette communion avec Jésus et Dieu? En premier, il y a plusieurs raisons. Mais l'une des choses que l'on peut faire, c'est garder les paroles de Jésus. Et ces paroles, c'est la Bible. Un arbre ne peut pas vivre sans eau. Bon, vous me direz, OK, il y a des particularités, il y a des arbres qui poussent dans le désert, c'est vrai. Mais un arbre ne peut pas vivre sans eau. Et la parole de Dieu est ce qui irrigue notre cœur pour apporter la vie là où elle est nécessaire. Si nous avons besoin de patience, c'est dans la parole de Dieu que nous la trouvons. Si nous avons besoin de foi, c'est dans la parole et dans la communion avec Dieu que nous la trouvons. Et nous devons également demeurer dans l'amour de Dieu. Demeurer dans son amour, je pense, c'est reconnaître notre place. Quelle est notre place en Dieu? Nous avons cette place d'enfant, mais un enfant gracié. Et nous ne devons pas hésiter à nous humilier pour demeurer dans l'amour de Dieu. Mais ça veut dire aussi que nous ne devons pas culpabiliser, faut pas que la culpabilité prenne le dessus sur notre qualité d'enfant de Dieu. Il peut arriver que nous fassions une faute, il peut arriver que nous fassions de péché, et ça arrivera. Mais nous devons nous rappeler que l'amour de Dieu est bien plus fort que le péché que l'on peut commettre, mais que nous devons nous revenir à Jésus et lui demander pardon. Nous devons donc demeurer dans l'amour de Dieu pour que cette communion demeure. Et nous devons également demeurer dans l'obéissance. Et ce n'est pas évidence, mais c'est ce que Dieu nous demande de faire, d'obéir. Dieu nous demande, et Jésus nous demande, de faire comme la communion que lui a avec le Père. Jésus a obéi à Dieu le Père, allant jusqu'à donner de sa vie pour nous donner d'être racheté, réconcilié avec lui. Et c'est une telle communion que Dieu également nous demande d'avoir, une obéissance. Et ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Mais nous trouvons les moyens d'obéir en faisant une fois de plus confiance en la parole de Dieu. Troisième communion qu'on voit dans le texte, c'est la communion les uns les autres, toujours au verset 3 et 4. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Là, je nous rappelle la communion des chrétiens. Ce n'est pas une simple association d'amis qui partagent une passion commune, une passion sportive, culturelle, loin de là. Mais c'est une association de croyants, de ceux qui ont cru au message que les apôtres, ceux qui ont vu Jésus, l'ont entendu, et le message qu'ils annoncent, Jésus-Christ. C'est donc une association de chrétiens. Et dans les premiers jours du christianisme, on voit que dans l'Église primitive, c'est ce que les chrétiens faisaient. Ils étaient en communion les uns les autres. Et vous pourrez le lire dans Actes 2, juste sur la fin, que ces chrétiens mettaient tout en commun et qu'ils passaient du temps dans la prière et dans la fraction du pain. C'est la volonté de Dieu que le chrétien soit uni l'un avec l'autre. Et cette communion n'est pas basée sur notre propre désir. Elle est basée sur l'amour de Jésus envers les chrétiens et le désir de chrétien de lui être agréable. Jésus ne nous appelle pas à être des chrétiens solitaires, mais plutôt communautaires, car issus d'un seul et même Père dont ils sont les enfants. Ainsi, Jésus peut dire au travers de Paul que nous sommes un corps. Et cela est clair. Nous sommes liés les uns les autres et nous sommes indissociables en Christ. Nous sommes comme nous le chantons ici, nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. C'est des mots simples à dire, mais qui sont parfois pas évidents à vivre. Mais savez-vous, Christ croit en nous et Christ croit en vous. Christ croit en moi pour que je sois un avec mon frère, avec ma sœur. Christ croit en vous pour que vous soyez un avec votre frère, avec votre sœur. Il croit tellement qu'il pense que toi et moi, nous pouvons avoir et nous vivrons la communion parfaite qu'il y a entre Dieu le Père et lui. Et il le dit une fois de plus dans l'Évangile selon Jean, Jean 17, le verset 20 à 21, qui dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. » C'est Jésus qui prie pour ses disciples. « Ce n'est pas seulement pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi, par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Il est clair là-dessus. Christ, Jésus croit, et croit en nous, et croit que nous serons un, comme lui et le Père sont un. Mais est-ce que c'est une utopie? Est-ce que Jésus s'est-il trompé en disant cela? Certainement pas. Vous me direz, par notre propre force, cela nous est impossible. Mais une fois de plus, cela est possible par l'action du Saint-Esprit que Dieu donne à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'un jour, on pourra dire que celui qui a vu Josette a vu Herbert? Je ne sais pas. L'idée, ce n'est pas de devenir des clones des uns des autres, mais des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Des valeurs qui se déclinent dans notre vie quotidienne de tous les jours, au point que ça transparaît aux autres. Nous serons des personnes qui aspirons à la même quête, être agréables à Jésus-Christ. Et plus nous serons en communion avec Dieu et Jésus, plus notre communion les uns avec les autres sera plus forte. Plus nous serons en communion avec Dieu et Jésus, plus notre communion les uns les autres sera plus forte. Parce que c'est en Jésus que nous tirons la vie, c'est en Jésus que nous tirons la force de faire le bien. Comme il a dit, par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire de bien. Ces derniers temps, j'ai vraiment été interpellé par une chose. Je me dis, comment Dieu, qui sait tout, qui a tout, peut investir en des hommes comme vous et moi? Imaginez que vous avez un trésor, quelque chose de très précieux. Prendrez-vous le risque de le confier entre des mains de personnes dont vous n'avez pas confiance? Certainement pas. Pourtant, c'est ce que Jésus et Dieu, il a fait. Il a investi en nous. Il a investi en nous en venant dans le monde et en mourant à la croix pour nous racheter et pour que nous ayons cette communion avec Dieu et que nous devenions enfants de Dieu. Il croit en nous quand il nous appelle l'Église, vous et moi. Avec nos faiblesses, il nous dit que nous sommes amenés à être une Église parfaite. On dirait la barre est haute. Mais c'est Christ qui fait cela en nous. Ce n'est pas par notre propre force que nous pouvons être cette Église parfaite que Jésus appelle de ses vœux. Mais c'est en Jésus-Christ. Jésus dit que nous sommes un corps et que nous sommes indissociables. Quelques éléments qui peuvent favoriser en tout cas notre communion fraternelle, qui est aussi importante que la communion avec Dieu, c'est avant tout, bien sûr, le culte. Le culte, c'est un moment où nous pouvons vivre cette communion fraternelle les uns les autres. C'est un moment où nous pouvons nous encourager les uns les autres. Mais il n'y a pas que le culte. Il y a les réunions en semaine, les groupes de maison. Et là, on en a 5. J'ai failli en louper 1 ou 2. C'est le moment où nous pouvons nous apprendre à se connaître les uns les autres. Et c'est cela la communion fraternelle. Dans l'Église primitive, les chrétiens ne se voyaient pas seulement le dimanche, mais ils étaient ensemble en tout temps. Alors, je ne demande pas qu'on déménage et qu'on habite tous ensemble, ce n'est pas ça le but, mais le but, c'est d'être ensemble, de faire davantage connaissance, de passer du temps ensemble dans la lecture de la Bible, celle qui nous permet de connaître justement quelle est la parole de Dieu et de la vivre, parce que c'est elle qui nous donne la vie, qui irrigue notre cœur. Et c'est l'objectif des semaines de convivialité qui ont été mises en place dans notre Église. On a consacré une semaine pour que les uns et les autres puissent se voir, inviter un ami, inviter un membre de l'Église que l'on ne connaît pas très bien, pour tisser des liens et devenir une communauté ou des chrétiens avec une communion fraternelle soudée. Et ça, cela vraiment est important et capital. Nous devons investir dans des relations entre frères et sœurs pour s'entraider dans la prière, dans la lecture de la Bible et nous entraider à être, à toujours chercher à être agréable à Dieu. Moi, j'ai beaucoup d'espérance, non pas en moi, non pas en vous, mais j'ai de l'espérance avant tout en Jésus-Christ. Et c'est en lui que nous... Je vous invite vraiment à mettre votre confiance et à faire un pas jour après jour. Est-ce que l'Église ou nous autres, nous devrons être comme l'hôpital qui accueille ceux qui sont malades? Je pense que la réponse est oui. Et c'est ce que Dieu il fait pour nous. Il accueille ceux qui sont faibles. Il accueille ceux qui sont brisés. Il accueille ceux qui sont malades. Et c'est ce que Dieu nous invite aussi à faire. Pour terminer, je vais juste finir avec ce verset d'encouragement de Paul aux 2 Corinthiens, le verset 12 à 18, qui dit ceci. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager avant que Jésus ne vienne. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour même, le voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas. Je vais lire juste à partir du verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit, est la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, et la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. C'est en regardant à Jésus que nous serons transformés à son image. Et c'est en regardant à Jésus que nous serons cette Église parfaite qu'il appelle de ses vœux. Prions. Seigneur, ta parole n'est pas... Nous ne sommes pas des fables au Seigneur. Et merci au Seigneur de ce que ceux qui ont été témoins oculaires de ce que Jésus tu as accompli nous ont laissé la Bible, nous ont laissé ta parole. Et merci de ce que cette parole nous rappelle que la vie vient de toi et que tu donnes la vie au Seigneur à tous ceux qui croient en toi. Merci aussi Seigneur de ce que tu donnes à ceux qui croient en toi de pouvoir faire le bien, non pas par leur propre force, mais en regardant à toi. Nous voulons, Seigneur, être transformés à ton image. Nous voulons, Seigneur, vivre cette vie que tu nous donnes et la répandre à ceux qui ne l'ont pas encore reçue, à ceux qui n'ont pas encore entendu parler de toi. Seigneur, aide-nous à vivre ensemble dans l'Église la communion avec toi, ô Seigneur, en nous rappelant que ce n'est pas nous qui vivons au Seigneur, mais c'est toi qui vis en nous et que c'est toi qui nous donnes la force de faire un pas après l'autre pour venir à toi et être ces enfants ou cette église que tu appelles de tes vœux. Au nom de Jésus. Amen.